Une émission de Jean-Pierre Esrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité toulousaine, Radio Esprit Occitanie, qui est notre ville support de notre radio, et Toulouse, ville rose. Alors justement, la question qui est posée aujourd'hui, et en lisant les gazettes, je me suis aperçu qu'il y avait un changement, une menace, je ne sais, mais Toulouse rose voudrait devenir Toulouse blanche. Vous allez me dire, bon, c'est une annonce assez surprenante. Mais il s'agit effectivement d'une réalité. C'est-à-dire que la ville, pensant, comment dire, se soumettre aux injonctions écologiques qui nous demandent de rafraîchir la ville, on a pu dire à nos élus, on a pu dire aux responsables de l'administration que le moyen de faire baisser la température, c'était de la blanchir. Alors, on a déjà les positions de la mairie de Paris, et notamment un adjoint qui s'appelle David Billiard, qui est un élu communiste et qui est, on peut dire, un écologiste fringant et qui se propose de faire baisser la ville de 6 ou 7 degrés en peignant les toits de Paris en blanc. Alors, ce qui paraît être un poisson d'avril, en fait, est une réalité, non pas que ça se soit déjà passé, mais en tout cas, les intentions y est. Alors, Toulouse, dans, on peut dire, une sorte de mimésis avec la capitale, veut également avoir... être un bon élève, puisque c'est l'expression que je trouve assez infantile que l'on emploie aujourd'hui. On a les bons élèves et les mauvais élèves, ce qui est assez ridicule pour parler des décisions politiques et par rapport à un agenda qui serait celui du réchauffement climatique. Alors, je ne vais pas faire un débat sur le réchauffement climatique, simplement sur les propositions qui sont faites pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il apparaît avec, on peut dire, un mot assez savant, qui est l'albédo. C'est l'effet albédo, c'est l'effet de réfraction des matériaux. Et à partir d'une approximation scientifique, on a déclaré, sans que personne ne s'oppose à cette déclaration, que de peindre les toits en blanc ferait baisser la température. Alors, à Toulouse, on est plus modéré, certainement, que de peindre les ardoises et le zinc en blanc à Paris. Et on a simplement pensé, en demandant l'avis des Bâtiments de France, comme vous le savez, les centres-villes sont protégés en fonction des monuments historiques qui, heureusement, parsèment notre ville, et donc les toits également. Donc on va changer la couleur des tuiles, et au lieu d'avoir le brique couleur toulousaine, on aurait un rose pâle qui serait supposé rafraîchir la ville. Alors là, c'est là où je veux en venir, d'une aberration scientifique. Alors, expliquons l'effet albédo. C'est simplement que les matériaux sombres et mats absorbent la chaleur rayonnante du soleil et la réflexion est faite par des surfaces brillantes et des surfaces blanches également. Donc, on a un effet de réflexion dans un cas et on a un effet d'absorption de la chaleur qui est absorbée par la masse qui est derrière la surface. Bon, tout ça est théoriquement juste. Simplement, la question, c'est que l'énergie est une constante et qu'il n'y a pas de baisse de température, si ce n'est qu'il y a des transferts. Alors, on peut réfléchir à cela et dire que ça peut être intéressant. Alors, dans le cas d'une surface blanche, d'un toit qui soit blanc, ça dépend d'une part de la couleur, de la réflexion du matériau, est-ce qu'il est brillant ou pas, et aussi le dernier point, c'est la nature du matériau, et apparemment on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique dont je ne serai pas d'ailleurs très compétent à faire, mais on est sur, on peut dire, du bon sens et de l'observation. Dans le cas des surfaces blanches, par exemple, on a donc l'absorption dans le bâtiment qui serait moindre si le toit est blanc, mais contrairement à ce que l'on dit, la chaleur de l'atmosphère, c'est-à-dire que le rayonnement qui est envoyé est renvoyé dans l'atmosphère. Donc, on aurait ainsi, si on a des murs blancs, on aurait un rayonnement plus important et on aurait donc moins de chaleur qui serait absorbée par la masse des bâtiments et un rayonnement plus fort. Donc, si vous me suivez bien, on aurait plus chaud. Je pense que ce n'est pas une absurdité ce que je dis. Je pense que tout le monde a pu constater qu'en été, si vous bronzez devant un mur blanc, vous allez avoir une lumière et une chaleur qui est en réverbération du mur blanc. Je ne parle pas évidemment de mur en tôle brillant, etc. Simplement de mur blanc. Et si vous êtes devant un mur en brique ou en pierre de couleur, vous avez la chaleur qui est absorbée par le mur. Et notamment dans le cas de la brique, on peut l'observer à Toulouse. Et effectivement, vous avez après, quand la température baisse le soir, vous avez la chaleur qui est en partie emmagasinée, qui est ressortie. Et effectivement, on aura, alors dans ce cas-là, des nuits, on peut dire, moins fraîches à l'extérieur, mais à l'intérieur, puisque la chaleur va passer de l'intérieur à l'extérieur, on aura des bâtiments plus frais. Alors, ça, il faut toujours dire que l'énergie est toujours constante et il n'y a que les transferts. Prenons l'exemple du réfrigérateur. Le réfrigérateur, on fait du froid en produisant de la chaleur. La climatisation, c'est sur le même principe. C'est-à-dire que l'énergie ne fait que se transformer et ne se crée pas. Donc, dans le cas de ces matériaux, je pense qu'il y a aussi un exemple qui est assez simple et que tout le monde a pu voir. Si vous êtes au bord d'une plage en été, et nos plages méditerranéennes ont du sable très clair sur la côte languedocienne, et on a des plages qui ne sont pas en cailloux, comme sur la côte d'Azur, et on a donc du sable blond, clair. Et si vous n'êtes pas au bord de la mer, parce que quand on est près de la mer, et si le sable est humide, là il y a l'évaporation de l'eau qui rend le sable frais. Ça, c'est le phénomène de la baisse de température due à l'évaporation. Mais si vous êtes hors à une certaine distance du rivage, vous avez le sable qui est absolument brûlant et que en plein été à midi, on ne peut pas marcher sur le sable, on se brûle les pieds. Mais si vous avez un chemin en bitumé, par exemple, qui va être noir, ben, le chemin bitumé sera plus frais que la surface du sable, parce que la chaleur sera absorbée dans l'épaisseur de la terre la route, on pourra y marcher pieds nus dessus. Alors, le phénomène, par exemple, dans certaines villes et à Toulouse, on pense qu'il faut mettre les sols blancs. Alors j'ai vu que la ville de Toulouse avait embauché un spécialiste, justement, de rafraîchissement des villes, qui propose d'éclaircir et de blanchir les sols. Alors, je viens de vous citer l'exemple du bord de plage, mais on peut l'expérimenter. Je vois, par exemple, cet été, me promenant sur la corniche de Sète, où il y a du macadam sur la route au goudronnée. Et puis, on a créé des petites places qui sont en rupture, qui servent aussi de rond-point fleuri, mais où on a pris de la pierre blanche. Eh bien, quand on passe, sans être pieds nus, uniquement du passage de la route qui est foncée sur l'élément blanc, vous avez une vague de chaleur et qui est même insupportable due à la réflexion sur le blanc. Donc, quand j'entends qu'on va éclaircir les surfaces de sol pour faire baisser la température, là, je pense qu'il y a une certaine erreur par rapport à cela, parce que justement, c'est le sol foncé comme les murs foncés qui vont absorber et donner des villes plus fraîches. Cela me semble assez absurde. Alors, la deuxième chose, c'est que ces toits, on a par exemple aujourd'hui une publicité pour peindre les toits des bâtiments de grande surface et les bâtiments d'entrepôt. Alors là, effectivement, on a des bâtiments de tôle qui n'ont pas d'isolation, et c'est vrai que si on peint le toit, on aura moins de chaleur par le rayonnement de la transmission par la tôle, qui sera absorbée en partie par la réflexion du blanc. Mais enfin, je pense que dans ce cas, il vaut mieux avoir une bonne isolation, traditionnelle ou pas, que le blanc, qui est assez d'abord salissant, et de plus, sur certains supports, notamment des couvertures en bitume, on n'a pas de peinture qui peut tenir dans le temps, et on risque d'avoir des peintures qui partent en poussière dans l'atmosphère et qui peuvent être polluantes et avoir des effets nocifs non contrôlés, sans parler des surcoûts et aussi de la laideur que cela peut produire pour, disons, des vues, si ce n'est aériennes, en tout cas plongeantes. Donc, il s'agit certainement de créneaux pour certaines sociétés qui pensent à leur profit, mais les effets sont faibles. Alors, dans le cas de Paris, par exemple, où on voudrait peindre les bâtiments existants, et les bâtiments existants, ils ont des combles, et le rôle d'un comble, c'était justement d'être ventilé. Mais à Paris comme partout, et les combles n'étaient pas habités, ou ils étaient habités ne serait-ce que, qu'en partie, et la grande partie des combles servait de ventilation, et si cet effet était conséquent, comme je vous disais, c'est surtout l'isolation qui va faire le différentiel, mais en fait, ce n'est que le dernier étage qui serait concerné, mais le bâtiment lui-même, ça servirait pas à grand-chose. Alors, de plus, comme je vous disais, l'absorption par les bâtiments, si les bâtiments réfléchissent la chaleur, on aura une ville qui, elle, va augmenter de degrés. Alors, évidemment, c'est-à-dire que c'est la température du dedans et du dehors, mais on aura peut-être des bâtiments, en théorie, qui vont être moins chauds, plus frais, mais la température de la ville va augmenter, ce qui ne me paraît pas être l'effet souhaité. Voilà, donc, il faudrait que nos édiles n'aient pas uniquement comme, on peut dire, comme objectif d'être les bons élèves par rapport à un catéchisme qui serait posé de bons points à recevoir et par rapport à toute une série de contraintes ou de propositions et dont beaucoup sont assez farfelues et certaines qui risquent d'être contraires, contre-productives ce que je viens de vous expliquer. Nous allons marquer une pause musicale.
She said, "Hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Be my lover, my Lady River. But can I take you higher? Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Yeah, 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 yeah. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take a for a ride on a big jet plane.
Reprenons sur la ville Et ces changements, la ville ancienne, bien sûr, par rapport à ces injonctions qui sont faites par l'écologie. Donc, le débat ici n'est pas pour ou contre l'écologie. Il s'agit simplement de voir si les injonctions qui sont demandées par l'écologie, entre guillemets, ou les écologistes en tant que personnes politiques, sont un agenda dont on doit cocher les cases et après les élections ou dans les débats politiques, le maire qui aura le plus coché les cases, alors elles sont effectivement sur la pollution de l'air, on en a parlé dans cette émission, elles sont dans cet exemple-là la modification des matériaux, on a parlé aussi dans des émissions précédentes entre du bois et du béton avec les réserves que l'on peut faire dans ces changements. Et dans le cas de la circulation aussi, on a par exemple on peut dire, pas la disparition de l'automobile, mais en tout cas, signaler l'automobile comme un archaïsme à détruire et à remplacer par le piéton et le cycliste. Alors, on sait les vertus de la marche à pied et du cyclisme dont on ne peut douter, et je n'ai aucune ironie dans mon propos. Simplement, il faut le rappeler, ça ne s'applique pas à tout le monde, et on a une ville qui va être en ségrégation parce que les très jeunes ne peuvent pas circuler en vélo dans le trafic, et les plus vieux non plus, et puis aussi toute une catégorie de personnes qui, pour des raisons physiologiques, n'ont pas ces facultés vélocipédiques, mais également aussi professionnelles. Je veux dire, qu'entre les plombiers, on ne peut pas amener ses outils sur un vélo, de même que si on travaille dans un bureau, on a des réunions importantes, on soit une femme et un homme, on ne peut pas arriver en sueur. Et puis, il faut aussi dire que la température n'est pas toujours propice et qu'il peut pleuvoir, faire froid. La neige est rare, mais on a un grand nombre d'intempéries et que le vélo ne peut être qu'une partie de la circulation. Mais aujourd'hui, les élus de toutes les villes ont cet agenda à remplir, là, une sorte de l'équivalent de la bigoterie d'antan où il fallait faire un nombre de pâtés et de confessions, d'eucharistie, pour son salut. Et là, évidemment, on a remplacé le salut individuel par le salut de la planète. Donc, personnellement, je n'ai absolument rien contre la généralisation de cette attitude, mais enfin, il faut ramener les choses à leur juste valeur. Par exemple, quand à Toulouse, je voyais, c'était l'année dernière sur la rocade, qu'il y avait des panneaux lumineux qui disaient « Ne jetez rien par les portières sur la rocade parce que vous devez respecter la planète. » Donc c'est assez sidérant parce que jeter par la fenêtre, je ne sais pas, des bouteilles ou c'est l'accident ou même la mort pour certaines personnes. Si ce n'est ces accidents et s'il n'y a personne qui le reçoit, véhicule ou piéton, on peut dire une ville qui va être sale parce que les gens n'ont pas cet esprit civique par rapport à cela. Et ce qui me paraît important, c'est que d'abord, on doit avoir le problème de l'accident possible, donc cette responsabilité individuelle. Deuxièmement, aussi la ville propre, qui est aussi une responsabilité civique. Bon, la planète, je veux bien, mais en fait, elle n'est pas au détriment de ces valeurs premières essentielles que l'on doit inculquer à nos enfants et à nos jeunes. Et je trouve absolument désolant que des comportements aussi peu inciviques soient uniquement « nous sauvons la planète », ce qui me paraît totalement absurde. Donc, revenons-en à à la ville et à ses nouvelles injonctions qui sont par exemple les voies cyclistes que l'on fait. Donc les maires ont à remplir, comme je vous disais, cet agenda où il faut avoir planté les arbres, il faut avoir débutimé, enlevé le bitume des sols. Et tout cela, on va avoir des bons points. Et si on ne fait pas ça, on aura des mauvais points. Infantilisation des bons élèves et des mauvais élèves, encore une fois. Mais dans le cas des pistes cyclables, je vais prendre un exemple toulousain, mais je pense que nos amis parisiens connaissent cela avec aussi des imbécilités comme la rue de Rivoli à Paris. Mais à Toulouse, par exemple, j'ai déjà cité cet exemple de la rue de Metz qui est en travaux pendant 3 ans, ce qui est pour simplement la rendre en partie ou totalement piétonne, que sais-je, mais ces travaux, je veux dire, par leur durée, qui semblerait pharaonique, c'est uniquement pour des cyclistes. Et on a une rupture totale de la circulation dans la ville et des désagréments pour les riverains, n'en parlons pas, pour l'image de la ville à elle-même, un chantier où je vois 2 ou 3 personnes s'affairer et on est en train de crier au miracle pour les 5 ans pour la reconstruction de la Notre-Dame de Paris, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'incroyable. Il faut rappeler, je l'avais déjà dit, je le rappelle, que la rue de Metz, elle a été percée, c'est-à-dire qu'on a percé le tissu médiéval. On a donc démoli. On a reconstruit des façades, qui sont les façades actuelles, en briques et en pierre, de qualité. On a démoli une partie du musée des Augustins pour le percement de cette rue. Bon, ce qui n'était peut-être pas... Enfin, de cloître les Augustins. Et on a aussi démoli, là, pour créer une partie, en tout cas, des façades de la place Esquirol. Et cela a été fait dans la période qui est demandée pour uniquement changer le revêtement du sol de la rue de Metz. Alors, on n'avait pas à cette époque les outils que l'on avait aujourd'hui, mais arrêtons de tomber en pamoison parce que le président Macron a fait, comme s'il avait fait de ses petites mains, lui-même, on peut dire, la rénovation après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bon, mais pour en rester à Toulouse, parce qu'il ne s'agit pas effectivement que de la rue de Metz, mais un axe que j'emprunte ou que j'empruntais régulièrement, c'est la route de Saint-Simon. Alors c'est donc à la fois la route de Saint-Simon et la route de Seyss, qui sont donc dans l'ouest toulousain, et on va mettre des pistes cyclables. Alors ça prend... Des travaux qui bloquent, surtout pour la route de Seyss, qui est quand même un axe important de circulation et qui est rabattu sur la route d'Espagne. Mais les riverains, sur une longueur de plusieurs kilomètres, ont difficilement accès. La route est totalement défoncée. Les bouches de la partie sur laquelle la voie est réduite, il y a les bouches d'égout qui démolissent les pots d'échappement des voitures. Enfin, c'est l'enfer sur terre tous les jours pour les gens qui doivent l'emprunter. Et tout cela pour créer une piste cyclable. Et quand je vois les travaux sur ces routes, bon, il y a quelques ouvriers. Sur 1 kilomètre, il y a 3 ouvriers. Et c'est à peu près pareil ce que je vois sur cette fameuse rue de Metz dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un vrai problème. Et Paris est devenu un enfer par des travaux qui sont dans toute la ville, des travaux là aussi où il y a des chantiers ouverts peu d'ouvriers et on ne comprend pas du tout comment tout cela est mal organisé. Alors il faut dire en période d'économie budgétaire, puisque c'est de ça dont on parle, que tout cela a un coût, alors à la fois par les nuisances, par le commerce qui marche moins bien et par le temps perdu par les riverains. Et je pense aussi que ces travaux, plus les travaux sont longs, plus ils coûtent cher et que les seuls moyens d'arriver à des travaux efficaces, c'est d'avoir des travaux bien planifiés, rapidement faits. Et on a aujourd'hui toutes les techniques que nous donnent les engins de chantier pour arriver à faire des travaux rapidement et d'une manière propre. Tout ça, c'est des technologies maîtrisées. Donc, à se demander si le fait que l'on fasse des travaux, c'est de montrer, encore une fois, on s'occupe de vous, regardez comment on travaille. C'est une hypothèse, mais dans la réalité, on voit que les villes, mais c'est à peu près général, je crois qu'à peu près tous les centres-villes centres-villes et périphérie des villes, puisque ce dont je vous parle, c'est situé en périphérie des villes, devient des enfers pour les habitants, pour les gens qui s'en servent comme voie de circulation, pour aller entre domicile et travail, et puis tous les échanges que l'on peut avoir dans une ville. Et le vélo ne doit pas être sanctifié, c'est un des moyens de locomotion, et comme je vous disais tout à l'heure, il est limité par le nombre d'usagers, et là aussi, il s'agit au nom de, on peut dire, d'une sorte de, on parle beaucoup de justice sociale, d'équité, mais quand je vois que, par exemple, l'association De roues, de pieds, qui est une association de pieds de roues, une association toulousaine qui milite pour la piétonnisation et le cyclisme. Bon, nous sommes d'accord pour que des voies réservées peuvent être aménagées pour la sécurité. Tout ça est très bien, mais ils disent que leur combat est un combat pour les enfants, pour les familles et pour les handicapés et pour les personnes âgées. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est justement toutes ces catégories-là qui ne peuvent pas circuler en vélo, et la marche à pied également est assez limitée par rapport à cela. Donc, il y a aussi ces fantasmes dont j'ai déjà parlé, mais on y reviendra, de la ville de 15 minutes, où on pense que l'on peut trouver dans un rayon de alors, non, si c'est pas, ce serait 15 minutes à pied, donc c'est un rayon de 7 km, à la fois le travail, le logement, les écoles, les services sociaux et les commerces dans ce rayon. Là, on est dans une, je pense, une bêtise absolue, et c'est assez étonnant de voir cela repris dans des colloques comme ici vient de s'en tenir à Cannes, et on pourra reparler de cela dans cette émission. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Grégor, qui est toujours fidèle à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission «